si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas.
Oui, c'était de votre part, sans être prononcé, c'est un plaidoyer pour une autre esthétique possible. Parce qu'il y a une question d'esthétique qui pèse beaucoup sur
oui,
ces choix.
C'est un peu l'idée, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est. Bon, je pense que Nadal en reparlera tout à l'heure, mais moi, l'idée, c'est qu'on est enfermé dans des chaînes qui sont étroits et qui. Qui sont étroits, qui sont liés à simplement la prise en compte de l'histoire récente des lieux, c'est-à-dire celle d'histoire cartographique, je vais le dire comme ça, et qu'en revanche, le temps long, ça nous permet de nous dépayser beaucoup plus, tout en restant dans les lieux, c'est-à-dire en ne les trafiquant pas, en ne les imaginant pas tels qu'ils n'ont jamais été. C'est pas pour aller aux sources, pour moi, c'est pas l'enjeu, c'est simplement pour avoir d'autres opportunités, d'autres possibilités de choix dans les représentations de la nature qu'on souhaite imposer. Si on veut avoir une gestion environnementale ou écologique, il y a d'autres choix que ceux que nous dicte une histoire récente. Ça, c'est le travail qu'on fait avec Marianne qui est présente ici, sur les cours d'eau bas normands, cette fois-ci plutôt sur les aspects continentaux, où en gros, on voit qu'il y a toute une série de modèles qui sont en train de s'imposer et qui sont pour moi plus des modèles esthétiques que des modèles biophysiques. C'est-à-dire où l'argumentaire, même s'il n'est jamais dit, est plutôt esthétique que biophysique.
Moi, par rapport à ce que vous avez montré, merci pour cet exposé, parce qu'effectivement, ce découpage sur le temps long permet de voir à quel point il y a des inerties aussi en termes esthétiques. Ce que je regrette par rapport à ça, c'est la question de la photo, justement. C'est-à-dire que d'une certaine manière, tu cales ton esthétique sur des choix visuels.
Oui.
Alors que, quand même, la question de ces choix esthétiques, ils ne dépendent pas que du visuel. C'est du multisensoriel, notamment de l'odeur. Et en fait, on avait fait des expériences de ce type-là, c'est-à-dire que tu montres une image de forêt, pas des représentations positives de ce paysage, tu prends le même paysage mais uniquement avec des odeurs et tu n'as pas des représentations positives du paysage ou uniquement avec des bruits, enfin les sons qui sont dans ce paysage. Par exemple, la forêt vierge est très angoissante d'un point de vue sonore. Donc elle renvoie à des choses tout à fait différentes que juste le visuel.
Ouais,
et ça joue aussi sur la construction de ces paysages.
Je suis d'accord avec ça, hein, mais disons que c'est un travail qui commence, voilà. Et puis c'est aussi une manière d'appréhender qui était plus simple pour moi, parce que voilà, c'est la description,
c'est la
pratiquer, voilà. Mais après, l'immersion, on peut la restituer, hein, comme expérience personnelle. Après, elle est plus difficile à faire partager. Et ce travail-là, il nécessite d'être fait, et on l'a pas fait.
Hein, très clairement. Mais c'est plus important. Enfin, moi, je dirais que c'est plus important que juste. C'est plus important que juste une question d'habitude. Parce que tout d'abord, on est dans une civilisation extrêmement optique, visuelle, etc. Ce qui a conduit à avoir cette espèce de rapport à la nature un peu distancié, de rapport à la carte postale. Hein, et que justement, toute la question environnementale rappelle qu'il y a de l'immersion. On est dans la nature, on est des êtres de nature. Et qu'on est... Donc il y a toute cette mise en relation auquel nous convient les autres sens, enfin l'odorat. Et donc du coup, en fait... C'est à la fois une commodité, mais c'est une commodité parce qu'on a toujours l'habitude de passer par certains découpages esthétiques.
C'est typiquement le parcours là, que je vous ai montré sur ces dernières photos, il fait 350 mètres. Hein, c'est à la portée de tout le monde. C'est typique. Ça serait très intéressant de voir ce que chacun porte en soi quand il va dans ce lieu-là et ce qu'il en ressort de ce point de vue-là. Moi, j'ai essayé de rester sur l'objet parce que je ne voulais pas mélanger les genres. Mais voilà. Mais je comprends très bien.
Justement, la question que je me posais en voyant ce que tu montrais, quand tu montrais sur le temps très long, enfin, quand on remontait à très ancien, c'est comment restituer ces paysages, si ce n'est en passant par ce qu'on voit autour de nous. Enfin, non, mais c'est... Et en même temps, ce n'était pas forcément ça. Enfin, est-ce que du coup...
Ça, c'est une question on se pose d'un point de vue scientifique. Ouais, c'est-à-dire la question de l'analogue. Par exemple, là, j'ai parlé de paysage. Je n'ai pas parlé de milieu. Parce que d'un point de vue spécifique, si on prend les espèces végétales, animales, etc., elles sont bien différentes des milieux du début de l'Holocène. Moi, j'ai fait une analogie, hein, je ne l'ai pas dit, pareil, mais vous l'avez compris, j'ai fait une analogie qui est une analogie paysagère, qui renvoie aux formes visibles. C'est ça que je me suis resté aussi là-dessus. En revanche, les milieux, écologiquement, ne sont pas les mêmes. Hein, il est passé là-dessus 4 millénaires d'anthropisation, et les espèces qu'on retrouve aujourd'hui dans cet espace-là n'étaient pas ceux de l'Aulnay du milieu de l'Holocène. Donc c'est pas le même milieu. En revanche, on parle bien là de paysage, éventuellement d'esthétique, on est sur des esthétiques qui étaient peut-être proches, à condition de se transposer nous-mêmes à l'Holocène moyen. Mais cette question de l'analogue, on se la pose d'un point de vue scientifique, on est obligé de l'avoir en tête, parce que sinon on ne peut pas faire de restitution paysagère. Sans analogue, on est perdu. Oui, c'est-à-dire, sûr, sinon on reste sur des complexes de mots, des concepts, mais on n'arrive pas à donner. Hein,
Et ça, c'est une zone qui a été touchée par l'homme ou pas du tout ?
Oui, toutes. Elles, enfin, ça, c'est quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, mais je le répète. Tous les espaces ont été profondément travaillés par l'homme. C'est-à-dire que si on prend un espace comme ça, les flux liquides qui ont traversé cet espace-là au cours des millénaires ont été alimentés par des sédiments qui ont été produits par l'érosion des sols. Le fond de vallée a été atterri, il a été transformé. La végétation a été coupée, prélevée. La faune a été chassée, etc. Donc tout le complexe a changé. Tout a changé, partout. Il n'y a plus rien d'origine.
Non, mais je pensais qu'à un moment donné, vous avez parlé de la... C'était des zones réservées à la cueillette et à la chasse, hein, et pas du tout à l'agriculture.
Oui, parce que je n'ai pas évoqué l'histoire agricole de cet espace-là. Mais ça a été un espace agricole, ça a été un espace de réserve de chasse, ça a été un espace de prélèvement de bois.
Quand moi j'entends paysage, j'entends paysan aussi, et donc des gens qui modifient le paysage.
Ouais.
Et le milieu, pour moi, c'est vraiment un milieu qui évolue tout seul, sans...
Non, mais je comprends ce que vous dites. Mais globalement, pour nous, le paysage est construit par les sociétés. Il n'y a plus de débat. C'est-à-dire que les sociétés ont pris des éléments biophysiques, elles les ont recombinés. Elles ont fait du transgénétique, si vous voulez. Il y a un matériel biophysique de base, mais il a été totalement assemblé à la manière des hommes, ou des sociétés agricoles. Hein, dans cet espace-là, ça a été fait à cette manière-là. Ça, c'est le résultat de la déprise agricole. C'est-à-dire la fin des activités agricoles dans cet espace. Ça n'a pas été un milieu qui a été toujours comme ça. Il a été agricole, profondément agricole. En revanche, il a abandonné cet espace depuis à peu près un siècle. Ça aussi, hein, ça renvoie aux réflexions sur la friche. C'est comment on gère les friches et quel type de friche on veut. Enfin, il y a plusieurs catégories.